On s'entretient maintenant avec Jean-François Rancourt, analyste des politiques publiques et conseiller en défense des droits et la Société québécoise de déficience intellectuelle. Bonjour, M. Rancourt.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci, vous?
Ça va bien. On parle d'un sujet dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Il y a manque d'accommodation pour les personnes ayant une déficience intellectuelle à l'intérieur des prisons.
Oui, tout à fait. C'est un sujet, en effet, qu'on connaît pas beaucoup, mais en ce moment, à l'intérieur des prisons au Québec, où d'ailleurs il y a une surreprésentation des personnes qui ont une déficience intellectuelle, malheureusement, ben il n'y a pas de programme adapté à leurs besoins du tout, du tout.
Et parlez-nous des conséquences de ça, parce que peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, on ne voit pas les besoins et les conséquences du manque de programme dans les prisons. Pouvez-vous nous donner des exemples?
Oui, tout à fait. Ben écoutez, un des gros problèmes, en fait, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est que les programmes de réinsertion sociale qui sont mis en place actuellement dans les prisons ne leur conviennent, dans beaucoup de cas, ne leur conviennent simplement pas. La manière que les programmes sont mis en place, les personnes ont de la difficulté à performer d'une manière qui est attendue d'elles, donc ça va compliquer leur réinsertion sociale, ça va la rendre beaucoup plus difficile. Ça fait qu'il y a des personnes qui ont des déficiences intellectuelles qui vont passer des peines très longues, en fait, qui vont faire leur peine dans la durée complète en incarcération, alors que d'autres personnes vont pouvoir avoir des peines réduites si elles répondent à certains critères, par exemple. Donc, ça peut vraiment compliquer la trajectoire des personnes qui ont des déficiences intellectuelles puis les faire rester à l'intérieur des prisons encore plus longtemps.
Parce que si je comprends bien, donc c'est ça, il faut répondre à certains objectifs pour se qualifier pour les programmes, et à l'intérieur des programmes, il faut performer, entre guillemets, pour prouver qu'on est capable de s'insérer à la société, mais sans prendre en compte les besoins particuliers des personnes avec déficience intellectuelle, ça fait en sorte que ces personnes-là sont mal vues là, dans les prisons et n'arrivent pas à respecter les critères des programmes, donc font des peines plus longues, c'est ce que je comprends?
Oui, c'est tout à fait juste. C'est exactement ça. Puis, tu sais, il peut y avoir, par exemple, des programmes, je sais pas, une personne qui a une déficience intellectuelle qui aurait aussi des enjeux de santé mentale pourrait rentrer dans un programme qui touche à la santé mentale, donc pourrait travailler sur certains aspects, sauf que ces programmes-là vont pas aller toucher à la spécificité de la déficience intellectuelle. Donc, vraiment, il n'y a pas de conditions gagnantes pour favoriser la sortie des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis ce qui arrive après, c'est que quand ces personnes-là ressortent de prison, il n'y a pas d'accompagnement non plus. Donc, elles sont carrément laissées à elles-mêmes dans une situation qui est souvent assez difficile. Et ça crée, malheureusement, dans beaucoup de cas, une sorte de cercle vicieux où la personne va sortir de prison, puis va être ramené à l'intérieur de la prison un peu plus tard, puis ça peut venir un cercle presque sans fin.
Oui, et j'imagine qu'une partie du problème, c'est que les intervenants et intervenantes des programmes, malgré leur bon vouloir, ne sont pas nécessairement à l'aise avec les personnes en situation donc, de déficience intellectuelle ou formées à aider ces personnes-là et à comprendre leur réalité.
Oui, c'est un point très important que vous soulevez là, c'est la question de la formation. Il n'y a pas de formation obligatoire en ce moment pour les intervenants, les intervenantes dans le système carcéral. Il existe certaines formations dans certains établissements qui sont données par des personnes de bonne volonté, mais c'est pas systématique. Puis d'ailleurs, à la SQDI, à la Société québécoise de déficience intellectuelle, c'est une des choses qu'on demande, c'est la mise en place de formations, autant une formation initiale, mais aussi une formation continue qui devrait être offerte à peu près tous les intervenants du milieu de la justice, en fait, dans une optique de prévenir la surjudiciarisation des personnes qui ont une déficience intellectuelle, parce qu'on croit que dans bien des cas, on peut éviter le passage par le système judiciaire par le biais d'autres types de programmes, d'accompagnement, par exemple, de la personne de manière plus appropriée. Parce que malheureusement, la prison, c'est pas une solution pour venir en aide puis répondre aux problématiques de ces personnes.
Particulièrement quand la prison à l'interne n'est pas bien adaptée à leurs besoins. Donc, à ce moment-là, on peut pas non plus bien les aider. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de personnes avec une déficience intellectuelle qui seraient à l'intérieur de nos prisons en ce moment?
Malheureusement, on n'a pas accès à de telles données. Il y a eu des études qui ont été faites dans d'autres pays, mais je pourrais pas vous dire en ce moment exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une surreprésentation parce que On parle d'environ entre 1 et 2 % de la population générale qui aurait une déficience intellectuelle. Puis dans toutes les études d'autres pays, les pourcentages sont beaucoup plus élevés que ça. Mais encore une fois, une autre des problématiques qu'on a, c'est l'absence de données sur cette population-là puis sur ses trajectoires dans le système de justice. C'est une autre chose qu'on demande au gouvernement, en fait, c'est de mettre en place un système de suivi statistique pour qu'on puisse vraiment comprendre c'est quoi l'état de la situation. Puis ça va évidemment nous aider à y répondre de manière plus adéquate.
Est-ce que votre recherche, votre rapport vient à d'autres constats que ceux dont on a parlé, qui seraient importants de souligner?
Ben, écoutez, une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une déficience intellectuelle qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent dans le système de justice, qui y sont parce que le filet social n'est pas assez solide puis qu'on les laisse tomber.
Ouais.
Puis au final, c'est comme si la prison devenait l'ultime service public. C'était comme si c'était la dernière manière qu'on avait d'essayer de, entre guillemets, s'occuper un peu de personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Alors que si on prenait mieux soin des personnes au départ, il y aurait beaucoup moins de problématiques qu'il y aurait besoin ensuite d'aller dans le système de justice, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Il faut régler, en tant que société, il faut qu'on décide de régler les enjeux de pauvreté des personnes en situation de handicap en général, incluant les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Il faut qu'on s'occupe vraiment de renforcer le filet social. Puis il faut qu'on pense aussi à des enjeux intersectionnels comme des personnes qui ont des déficiences intellectuelles et, par exemple, des enjeux de consommation de drogue ou encore les personnes qui ont des déficiences intellectuelles et qui sont en situation d'itinérance parce que malheureusement, il y a aussi une surreprésentation de la déficience intellectuelle dans la population en situation d'itinérance. Donc, renforcer le filet social, le rendre vraiment plus solide, notamment en favorisant une approche où les différents ministères se coordonnent entre eux pour pouvoir avoir des objectifs communs, des mécanismes de suivi clairs, puis qu'on finance de manière plus appropriée aussi le communautaire, notamment bon la réduction des risques, la lutte contre l'itinérance, la toxicomanie, des choses comme ça, mais en ciblant les besoins spécifiques des personnes qui ont une déficience intellectuelle.
J'ai l'impression que ça revient toujours à ça dans plusieurs enjeux, là, c'est-à-dire que le filet social qui s'effrite là, et qui mène à des problématiques beaucoup plus graves parce qu'on les a pas pris à temps. Puis évidemment, les prisons, là, je ne suis pas spécialiste des prisons, mais ça me semble pas être l'endroit où on peut vraiment prendre soin des gens, étant donné, bon, évidemment, le climat de violence, l'anxiété, tout ce qui vient avec le fait d'être en prison. C'est pas un endroit où les gens se sentent accueillis dans une ambiance bienveillante, j'imagine.
Non, exactement, vous avez raison. Puis, tu sais, on peut imaginer une personne qui rentre en prison. C'est une période de temps où on s'attend que la personne réfléchisse, fasse l'introspection, puis en vienne à déduire « OK, mes agissements n'étaient pas corrects, maintenant je vais agir mieux dans la société ». C'est le but attendu. Mais on peut pas attendre ça d'une personne qui a une déficience intellectuelle sans l'accompagner dans un cheminement. Puis en ce moment, c'est ça qu'on observe. Puis comme vous le dites, en plus, il y a un climat qui peut être très tendu, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des gangs, des choses comme ça. Une personne qui a une déficience intellectuelle va vouloir masquer sa différence pour pas être trop victimisée. Mais malheureusement, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, lorsqu'elles sont en prison, elles sont beaucoup plus à risque d'être victimes de toutes sortes d'exploitations sexuelles, financières, psychologiques, physiques. Donc, on les place dans un environnement qui est extrêmement, extrêmement hostile pour elles, qui est absolument pas approprié.
Et à ce moment-là, évidemment, si c'est hostile, bien, les personnes ne peuvent pas bien répondre au programme et à répondre aux attentes qu'on a envers elles parce qu'elles sont en mode survie, finalement, j'imagine.
Oui, c'est exactement ça. Elles sont en mode survie. Puis, dans certains cas, ça peut amener de la désorganisation. Oui. Et là, on est dans le personnel carcéral, on n'est pas préparé à bien réagir à une personne qui se désorganise. Puis dans ce cas-là, la réponse peut être extrêmement violente. Il y a eu un cas dans les derniers mois qui était celui d'une jeune femme qu'on a surnommée Florence.
Oui, oui.
Vous en avez entendu parler. Pour rappeler aux auditeurs, c'est une personne qui avait été mise en prison parce qu'elle avait volé de la nourriture. Elle vit avec le syndrome de Prader-Willi, ce qui fait qu'elle ressent toujours la faim. Donc, elle avait été un peu poussée à trouver de la nourriture. Elle en avait volé chez les voisins. On l'a mis en prison. Elle s'est désorganisée, puis par la suite, la réponse, ça a été de la mettre au trou, dans une cellule d'isolement, où elle a passé plusieurs jours. c'est complètement inhumain comme traitement, puis ça montre vraiment à quel point on n'est pas prêt à prendre soin de ces personnes-là lorsqu'elles arrivent dans la prison, mais pas du tout, du tout.
Et on voit ça comme étant une réponse à un comportement violent, donc de mauvaise foi de la part des personnes, alors que parfois, c'est simplement leur cerveau et leurs besoins qui ne sont pas bien compris.
Exactement. C'est des personnes qui sont dans une situation de détresse totale, qui sont démunies, qui se retrouvent avec aucun repère, avec pas de personne à qui s'accrocher, qui se retrouvent vraiment dans une situation difficile. Puis la désorganisation en soi peut être juste une réponse tout à fait naturelle à cette situation-là. Sauf que, comme vous mentionnez, on va la voir comme un comportement dangereux ou atypique ou auquel il faut qu'on réponde par une punition. Mais c'est pas du tout le cas, puis c'est pas l'approche qui devrait être privilégié du tout, du tout. Puis c'est pour ça qu'on pense que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, la prison, c'est pas leur place. Puis autant que possible, il faut essayer de déjudiciariser. Mais après, il y a des cas où les personnes peuvent représenter un risque pour la société. Il faut évidemment quand même aussi s'occuper de ça. Mais on croit qu'il y aurait des alternatives à la prison, notamment des unités en milieu clinique qui pourraient être beaucoup plus adaptées pour ces personnes-là. Donc, il faut penser aussi à comment on peut améliorer la situation. La formation du personnel, c'est un premier point. Adapter le système de justice aussi en général pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle pour éviter que certaines personnes se retrouvent incarcérées parce que elles n'ont pas compris le processus, par exemple, en cours, avec les avocats, oui, le juge. Ça peut être très compliqué, même pour une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle. Donc, nous, on croit qu'il faudrait qu'il y ait accès, notamment, à des accommodements plus importants, par exemple, de l'accompagnement en langage clair lors des audiences, mais toujours dans une optique de permettre à la personne au moins de comprendre ce qui se passe, puis de pas, par exemple, déclarer quelque chose qui pourrait la mettre dans le trouble par la suite.
Donc, Monsieur Rancourt, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci de votre travail sur cet enjeu-là qu'on connaît peu, mais qui, visiblement, là, est un enjeu important. Donc, on pourra en reparler là, éventuellement quand vous aurez peut-être de nouvelles données, si on arrive à avoir des données probantes sur la question. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, c'était Jean-François Rancourt, analyste des politiques publiques et conseiller en défense des droits de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Et après la pause, on s'entretient avec Mme Émilie Charbonneau, vice-présidente.